et France 24 présente
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Et ensemble, nous recevons François de Rugy, candidat écologiste à la primaire de la gauche, député de Loire-Atlantique et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en 2015, vous claquez la porte de chez les Verts, que vous vous accusez de dérive sectaire, espérant peut-être un poste au gouvernement, mais ce seront trois autres de vos camarades qui décrocheront le pompon. Dans la foulée, vous créez le parti écologiste au pluriel. Et puis vous décidez donc de concourir pour cette primaire avec les six autres candidats au débat de la Belle Alliance Populaire. Vous vous dites le seul écologiste et réformateur, mais sur l'écologie, Benoît Hamon vient vous mordre les mollets. Trois débats en une semaine, une primaire express, des ballons parfois techniques où l'on replonge dans les détails, où l'on vous demande de dire en une minute ce que vous pensez de Trump, de la Russie, de l'Europe. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour que les électeurs s'y retrouvent? C'est un peu la question qu'on va vous poser déjà dans un premier temps, savoir comment vous avez vécu ces deux débats.
Et notamment avec cette question de savoir, au fond, si la forme des débats, leur organisation n'est pas trop formatée précisément, est-ce qu'elle ne vous bride pas dans la capacité à exposer votre projet, votre vision, vos idées?
On voit bien que certains candidats ont beaucoup de mal à se limiter à une minute ou à une minute trente. Moi, je crois que c'est un bon exercice, même si
la forme vous convient.
C'est très contraignant. Ouais. Ce n'est pas dans nos habitudes. Même à l'Assemblée nationale, les plus petites interventions font toujours minimum deux minutes.
Mais ça ne réduit pas l'argumentation.
Ça oblige à aller à l'essentiel.
Et oui, mais enfin, en matière de politique étrangère,
c'est frustrant. C'est voilà. Frustrant, souvent, de se dire, on aurait voulu parler de cela, ou de ceci, argumenter plus, expliquer, mais parfois, on peut redemander la parole pour réappuyer quelque chose que l'on a dit. Mais, c'est un bon moyen, je pense, pour celles et ceux qui l'ont regardé. D'ailleurs, ça a eu un certain succès, comme pour la primaire de la droite. C'est de pouvoir faire un comparatif en direct. C'est-à-dire que sinon, on a des invitations les uns les autres.
Enfin,
dans
un comparatif
médias.
Bourratif. Hein. Pardon l'expression.
Un peu long parce que il y a sept candidats et que chaque candidat, lui, il ne parle qu'un quart d'heure ou 17 minutes. Oui. Donc, pour chaque candidat, ça paraît peu. Et en même temps, évidemment, le débat dans son ensemble dure longtemps. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça remet chaque candidat face à des questions qui sont les mêmes ou à peu près les mêmes pour présenter ses propositions, et ça permet aux électeurs qui vont voter le 22 janvier de comparer ces propositions.
Mais c'est pas toujours simple parce que sur ce format, parfois vous n'avez qu'à peine le temps de vous exprimer. Tous les candidats ne sont pas forcément interrogés sur un même sujet. Au fond, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les téléspectateurs se font plus une idée sur la prestance, la présence, la manière de parler, le sourire, enfin, et la couleur de la cravate, finalement.
L'esthétique.
Non, je ne crois pas. Mais ça, c'est un vieux débat de la politique, surtout avec la télévision. Moi, je crois que il y a des candidats, il faut bien le dire, et je suis bien placé pour le dire, qui sont plus connus que d'autres. Des candidats qui ont eu beaucoup plus de temps d'antenne que d'autres pour présenter leurs propositions, et même quand ils n'ont pas beaucoup de propositions, ils ont quand même eu beaucoup de temps d'antenne.
Par exemple,
tout le monde sait très bien que Vincent Peillon, par exemple, qui se présente au dernier moment, qui fait un programme en une semaine, il a bénéficié quand même d'un temps d'antenne très important au début du mois de janvier, dont moi, par exemple, je n'ai jamais bénéficié. C'est ainsi. Donc, les débats remettent tout le monde sur un pied d'égalité. C'est vrai que peut-être des téléspectateurs nous découvrent et du coup se disent, un tel ou une telle que l'on connaissait moins, mais c'est intéressant ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. On va peut-être aller voir ensuite sur Internet, on va peut-être regarder les interviews dans la presse ou sur d'autres antennes. Je sens quand même que les débats ont relancé la campagne ou lancé la campagne.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait trop de candidats? On a envie de vous demander, que faisait Jean-Luc Benamias ici? Que faisait Sylvia Pinel? Et j'ai envie, c'est pas très gentil de vous demander ça, mais ce que vous faisiez là, à quoi ça sert?
Mais je vais vous répondre très simplement. Vous auriez pu dire que faisait Vincent Peillon, que faisait Manuel Valls, que faisait Arnaud Montebourg, que faisait Benoît Hamon.
Il y a quatre gros
Ah bon?
Et d'autres petits.
Sur quelle base vous dites ça? C'est quoi vos critères
ministériels, voilà.
Ah bon, quelqu'un qui a été ministre de l'Éducation nationale pendant 22 mois, qui a déserté le débat public pendant 2 ans et demi, c'est le signe d'une grande expérience et d'une bonne préparation.
Là, vous parlez
pour
à nouveau de Vincent Payon,
pour une élection présidentielle, et deux ministres qui ont démissionné alors qu'ils venaient de se voir confier 5 mois auparavant des responsabilités importantes. C'est ça vos critères pour dire voilà des candidats qui sont dignes de responsabilité, à qui on peut faire confiance. Enfin, écoutez, moi je suis désolé. Je le dis parce que à la fin de cette campagne, j'en ai vraiment assez du traitement différencié qui a été fait sur certaines antennes. Je le dis sur la vôtre, vous m'invitez.
C'est nous qui supportons votre erreur alors qu'on ne la mérite pas.
Vous le transmettrez à vos confrères ou à vos consoeurs et qui peut-être nous regardent ou auront un écho sur leur comportement. Et ce que je veux dire concrètement pour répondre à votre question, il y a une palette, des nuances au sein de la gauche, mais au sein des électeurs de gauche. Tous les électeurs et les électrices de gauche, ils ne pensent pas à la même chose sur le bilan de François Hollande, sur les propositions. Il y en a qui sont plus à gauche, d'autres qui sont plus social-démocrates, plus européens, moins européens, plus écologistes. Il y en a un qui est écologiste, les autres ne le sont pas. Ouais. Eh bien, c'est ce que vous retrouvez avec les 7. Après, sur 7, est-ce que en effet, tous apportent vraiment des différences? Bon, ce seront les électeurs de juger.
Oui, mais... La question est, en ce qui vous concerne, bon, certains ont considéré que vous avez fait une très bonne prestation et que vous étiez un peu la surprise de ce débat. Il y en aura pour tout le monde. Mais est-ce que vous n'étiez pas là initialement pour cette primaire qui était désignée, enfin qui a été faite pour François Hollande, parce que tout le monde pensait à l'époque au moment où ça a été décidé, et vous étiez là pour défendre le bilan Hollande. Est-ce que votre candidature n'était pas faite pour ça, dans le fond?
C'est pas de bol, hein. Le scénario, il était écrit pour dire la primaire, il y a quelques mois, on disait, mais de toute façon, ça sert à rien, cette primaire, puisque c'est juste pour valider, ratifier la candidature de François Hollande. Comme si, d'ailleurs,
parmi les
dans une primaire où François Hollande se serait présenté, il était sûr de gagner. Il était tellement sûr de gagner qu'il s'est pas présenté. Donc, la preuve que ceux qui avaient écrit ce scénario, ils l'ont jeté à la poubelle depuis, évidemment. Ils se sont pas excusés de l'avoir défendu de façon péremptoire pendant des mois. De la même façon que certains avaient expliqué, moi, vous voyez, j'ai fait du feu dans ma cheminée il y a pas longtemps et on prend des vieux journaux. Un journal du mois d'octobre disait « A-t-il déjà gagné ?» Et c'était Alain Juppé.
Vous savez que ça pollue les feux de cheminée?
Non, quand la cheminée tire bien et avec du bois bien sec,
il paraît que ça pollue même plus que le diesel.
Et vous avez fumé un petit pétard à côté. Et vous avez fumé un petit pétard.
Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais rien fumé d'ailleurs, ni cigarette, ni cigare, ni joint.
C'est pas bien,
et je n'ai pas envie de commencer.
Alors c'est vrai que vous n'avez pas le look d'un écolo faucheur de maïs. Vous êtes plutôt un écolo, on va dire, réaliste. C'est pour ça que
je le revendique.
Oui.
Alors c'est je trouve que c'est plutôt une qualité d'être réaliste.
C'est quoi un écolo réaliste?
C'est un écologiste qui a envie de mettre en œuvre les idées que je défends depuis, pour ma part, depuis que je suis engagé en politique, je suis engagé pour l'écologie. D'abord comme militant associatif, puis comme militant politique, puis comme élu local, puis comme élu national à l'Assemblée nationale depuis bientôt 10 ans. Et j'ai toujours voulu agir, même quand j'étais dans l'opposition sous Nicolas Sarkozy. Il y a eu au début du mandat le Grenelle de l'environnement, je m'y suis engagé. Et j'ai tout fait pour que les mesures soient mises en œuvre. Malheureusement, il a reculé et parfois même il a détricoté lui-même ce qu'il avait lancé. Mais ensuite, depuis 4 ans et demi sous la majorité de François Hollande, j'ai aussi essayé d'agir. Et j'ai dit quand il y a des choses qui n'allaient pas, et je le dis d'ailleurs dans les débats, et vous avez, si vous les avez regardés, vous avez vu que je suis critique sur beaucoup d'aspects d'un bilan que je trouve plein de rendez-vous manqués, et puis en même temps quand il y a des choses qui doivent être défendues, il faut le dire aussi. Parce que sinon, demain, on va attendre que la droite soit au pouvoir pour dire « Ah bah tiens, c'est dommage, on aurait peut-être dû défendre telle mesure qui maintenant est en train d'être abrogée ou détricotée par la droite qui serait revenue au pouvoir. » Donc ça, ça fait partie des débats. Puis après, il y a les propositions et c'est quand même ça le plus important pour l'avenir. Et le projet écologiste que je présente, les propositions que je présente, par exemple, sur l'énergie, et on l'a vu dans le deuxième débat, je suis les seuls à le défendre. Benoît Hamon est venu un peu me soutenir et est venu un peu appuyer mes propositions, mais c'est bien parce que je les avais mises sur la table.
Alors, on en dit deux mots de vos propositions, justement. On s'arrête sur l'objectif de production d'électricité 100% renouvelable en 2050, donc dans 33 ans. Finalement, c'est un peu demain à l'échelle du pays. Encore plus proche, dans 8 ans, en 2025, 0% de transport terrestre carboné. Bon, c'est un peu technique comme langage. En gros, ça veut dire plus un camion sur les routes dans 8 ans. Des camions électriques, mais ils vont pas aller loin.
Pour les voitures. Ma proposition, elle est de dire que d'ici 2025, toutes les voitures neuves vendues en France seraient électriques ou hybrides électriques pour profondément changer le marché de l'automobile.
Et vous êtes sûr
les constructeurs
que vous êtes sûr que la technologie dans 8
bien
ans
bien sûr d'ailleurs la Norvège a
pour
déjà
qu'on puisse
fait...
faire Paris-Marseille sans s'arrêter tous
oui.
les 200 km
mais déjà aujourd'hui
le plein sur une prise électrique
notre constructeur national la régie Renault comme on disait autrefois eh bien qui est un groupe mondial aujourd'hui a sorti un modèle la Zoé qui est un modèle de voiture accessible abordable oui. Qui a une autonomie maintenant de plus de 300 km oui. plus de 300
et
km
et vous mettez pas une famille avec 3 enfants dedans.
L'ensemble des constructeurs, oui. des grands constructeurs mondiaux, ils sont en train de sortir, ou ils vont sortir dans les 2 ans qui viennent, des modèles électriques ou hybrides électriques rechargeables, parce que moi je parle des 2 catégories de véhicules, et je dis d'ici 2025, donc là on se donne 8 ans pour que l'ensemble des voitures neuves, après sur le parc, vous savez bien qu'il y a un renouvellement du parc automobile existant qui se fait en 8 à 10 ans. Donc après, voilà, c'est quelque chose de progressif. Mais il faut fixer un objectif, c'est ça la politique, c'est de fixer un objectif. Et ensuite,
oui,
ce sont les entreprises et les consommateurs qui agiront.
C'est bien de fixer des objectifs, encore faut-il les réaliser. Donc aujourd'hui, l'énergie nucléaire, elle représente 75% de la production électrique. Et puis, on l'a rappelé dans ce débat, c'est 220 000 emplois. Vous vous dites, le pays doit sortir donc du nucléaire à l'horizon 2050, mais pour cela, il faut atteindre donc les 100% des énergies renouvelables. On est très en retard. Est-ce qu'on fait que, comme l'Allemagne qui a fait la démonstration, dans le fond, que ça ne marche pas, parce qu'ils ont construit des centrales à charbon. Alors, on fait du gaz. On n'a pas assez de vent pour les éoliennes, et vous êtes d'accord pour le soleil.
Si vous voulez,
un tiers de la journée.
Si
donc,
vous voulez,
je veux bien, mais vous faites comment?
Si vous voulez bien, je vous emmènerai dans les parcs éoliens. Un peu partout en France, sur la côte atlantique, comme dans le Nord, où les parcs
mais là,
solaires,
du vent, hein, c'est au bord
les parcs
de la mer.
Solaires, ben oui, mais il faut les mettre là où il y a du vent, évidemment. Les parcs solaires dans le bassin méditerranéen, qui aujourd'hui produisent une électricité au même coût à la sortie du panneau solaire que les centrales nucléaires. Ce qu'il faut dire clairement, d'abord, il faut arrêter de dire n'importe quoi sur l'Allemagne. L'Allemagne, c'est aujourd'hui 33% d'énergie renouvelable. Plus du double de la France. Donc c'est
quand même un résultat qui n'est pas mauvais. Vincent Payon a dit n'importe quoi
parce qu'il a dit on réouvre des centrales à charbon. Mais non, en Allemagne, il y a toujours eu énormément de centrales à charbon. L'Allemagne est un pays charbonnier. L'Allemagne a des mines de charbon. Et les grands partis conservateurs et sociaux-démocrates, ils ont des électeurs dans les bassins miniers de mines de charbon. En France, on n'a plus de centrales à charbon, quasiment plus, je peux vous dire, il y en a une encore.
Alors, Loire-Atlantique,
elle est
le gaz.
Non, on en a
le
quasiment
gaz, c'est
plus.
Du CO2 plein pot, alors.
Le gaz, il y en a quasiment pas. Toutes les centrales à gaz, malheureusement d'ailleurs, ont été fermées, alors que si on remplaçait les centrales à charbon par les centrales à gaz, on aurait beaucoup moins de CO2. Eh bien, 100% d'énergie.
On les remplace par quoi? C'est juste la question.
Est-ce que vous avez regardé les technologies existantes? L'éolien offshore. L'hydrolien, c'est-à-dire les énergies marines renouvelables. Le solaire électrique.
Il faut du vent et du soleil.
Il y en a. En France, on a tout ce potentiel. On a le potentiel du vent. On a le potentiel du soleil. On a le potentiel du bois énergie. On a le potentiel de l'hydroélectricité. On est le pays le plus riche d'Europe en termes de potentiel de diversification énergétique. Et on n'utiliserait pas ce potentiel. On irait chercher de l'uranium au Niger ou au Kazakhstan. On se mettrait pieds et poings liés avec des fournisseurs qui sont par ailleurs des pays peu fiables, qui sont jamais des pays démocratiques, dans lesquels on est obligé d'ailleurs d'avoir des opérations militaires pour sécuriser nos approvisionnements. Donc on serait dépendant des importations alors qu'on pourrait faire de l'électricité sur notre territoire. Et de l'électricité, pour reprendre un thème cher à un autre débatteur de la primaire, 100% made in France. Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Moi je pose la question dans ce sens-là. Pourquoi on s'en priverait?
Oui, mais il parle d'Arnaud Montebourg pour le made in France. Votre projet, vous nous dites qu'il est faisable, qu'il est viable, etc. Mais il faut arrêter
d'autres les... pays s'y engagent.
Il faut arrêter donc toutes les centrales nucléaires.
Progressivement, à 34 ans.
Donc on les laisse tourner toutes jusqu'à leur durée de vie possible?
Normalement, elles avaient été faites pour 40 ans.
Oui.
Il y en a qui arrivent à cet âge-là.
Oui. Mais celles qui ne sont pas.
De Buget, de Tricastin. Et il y en
Parce qu'il va y avoir le coût du démantèlement de toutes ces centrales
qui
va alourdir la facture. Oui, mais plus on les démantèle tôt, plus il faut faire face tôt à la dépense.
Prévu par EDF. Si on veut laisser les choses filer, comme ça, le laisser aller, le laisser faire, pas ma politique, moi. Mais si on veut être dans le laisser-aller, laisser-faire, eh bien, les centrales nucléaires, vous pouvez pas les laisser continuer à marcher puis attendre qu'elles tombent en panne. Ça, c'est pas possible vu le danger autour du nucléaire. Donc, vous êtes obligé de réinvestir. Ça a été chiffré par la Cour des comptes, par une commission d'enquête parlementaire qui a auditionné EDF. 100 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent. Donc le choix, il est clair, il est politique, il est écologique, mais il est aussi économique. Soit on investit ces 100 milliards dans la fuite en avant dans le nucléaire, qui est déjà une source d'endettement colossale pour EDF, qui est en danger de mort à cause de ça. Soit on investit cet argent, et sans doute moins d'argent, dans les énergies renouvelables, dont le coût de production baisse, alors que le coût de production nucléaire ne cesse d'augmenter. Je ne vois pas pourquoi on se priverait, au nom d'un mythe qui a été un mensonge d'État, parce qu'en France, il y a un mensonge d'État autour du nucléaire sur le prix. On ne cesse d'ailleurs d'augmenter les prix de l'électricité parce qu'il faut sans cesse éponger les dettes d'autrefois qui ont été contractées autour du parc nucléaire.
Et surtout, on a du mal à construire des centrales seules, aussi en France.
Ah bah,
on est obligé
de
demander aux Anglais.
Oui, le père de Flamanville, ça fait des années et des années qu'il devrait déjà être mis en service. 9 milliards d'euros, 9 milliards d'euros pour quelque chose qui n'a pas produit 1 kilowattheure d'électricité. C'est un fiasco industriel et financier. Le directeur financier d'EDF a dit l'investissement en Grande-Bretagne risque de tuer EDF. Est-ce qu'on veut continuer dans cette voie?
Alors, je voudrais qu'on reparle un peu de politique. C'est vrai que l'écologie et la politique. On avait l'impression, on a un peu l'impression que chez les Verts, c'est plus la politique qui prime que l'écologie.
C'est pour ça que je les ai quittés d'ailleurs.
C'est pour ça, oui. Quand vous dites dérive sectaire, qu'est-ce qui ferait qu'un parti écologiste ne serait pas sectaire? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous voyez une différence entre l'écologie de gauche et l'écologie de droite?
D'abord, l'écologie de droite, elle n'existe pas. Vous avez vu la primaire de droite.
Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet.
Oui, mais même elle n'a pas parlé d'écologie dans la primaire de droite. Et la seule fois où elle a voulu en parler, les autres candidats n'ont même pas répondu. Et elle s'adressait personnellement à Nicolas Sarkozy qui n'a pas répondu. Et trois débats de la primaire de droite, plus le débat d'entre deux tours, entre Juppé et Fillon, où il y avait sans doute des différences sur l'écologie, ils n'en ont même pas parlé. Nous, à gauche, nous en parlons, nous avons agi sur un certain nombre de domaines depuis 2012. Et moi, je suis... Là, c'est la démonstration concrète entre l'écologie qui resterait toute seule dans son coin, qui aurait un grand programme, très radical, mais qui n'aurait jamais le mode d'emploi, qui se condamnerait donc à l'impuissance en refusant l'exercice de la responsabilité. Moi, j'ai choisi une voie qui est plus étroite, qui est plus difficile, parce qu'on est critiqué, dénigré sur la primaire de la gauche, sur les tentatives pour faire avancer les choses, mais je crois que c'est la seule solution pour avancer. Et je constate, le deuxième débat d'ailleurs l'a bien montré, que quand on se met au cœur d'un débat qui s'adresse à des millions de personnes au lieu de s'adresser à 10 000 militants, eh bien là, on touche beaucoup plus de gens et c'est de nature à changer les choses à l'intérieur de la gauche.
Est-ce que votre objectif dans cette primaire, c'est aussi de remettre la main sur le parti, d'avoir le leadership sur l'écologie en France?
Non, moi ce que je veux, c'est
prendre la tête pour éviter
le maximum
de
personnes.
Si vous faites plus que Jadot, par exemple, au premier tour... que lui à la présidentielle, est-ce que vous allez...
C'est quand même un signe que ce que je défends depuis de très nombreuses années, puisque moi ça a toujours été ma ligne politique, et rencontre un certain satisfecit de la part des Français. Parce qu'il faut toujours essayer de convaincre. Et moi je veux convaincre le maximum de personnes. Si je me présente dans cette primaire... c'est pas simplement pour exposer des idées et puis dire maintenant vous en faites ce que vous voulez. Non, je veux convaincre celles et ceux qui nous regardent. Pas tellement les autres candidats, parce que ça, je sais que dans ces cas-là, on risque d'attendre longtemps. Mais si celles et ceux qui nous regardent, là, ce soir, ou les débats que nous avons eus et que nous aurons, eh bien, votent pour ma candidature, je leur dis, le bulletin de vote François de Rugy, vous l'avez à disposition pour donner du poids à l'écologie dans le projet présidentiel de la gauche. Plus il y aura de voix qui se porteront sur ma candidature, plus le projet présidentiel de la gauche sera écologisé, et à ce moment-là, ce sera un levier d'action pour le futur.
Et qui sentez-vous le plus à l'écoute des préoccupations environnementales dans la primaire et éventuellement en dehors de la primaire?
Moi, je vois bien qu'à travers cette question, on veut m'amener déjà à choisir un autre candidat. Moi, je me bats pour avoir le maximum de voix au premier tour. C'est pas pour commencer à dire que finalement, il y a un autre candidat qui serait aussi bien. Non, il faut être clair. Je suis le seul candidat à mettre l'écologie au premier rang des priorités. Avoir un projet écologiste cohérent. Moi, je dis d'ailleurs à celles et ceux qui viendront voter à la primaire de la gauche. La crédibilité, elle vient, me semble-t-il, de la cohérence, de la constance dans le temps. Cohérence dans le projet, parce que si vous avez un chapitre écolo, comme on dit, dans votre programme, mais que sur le reste du programme, il y a plein de contradictions, ça sert à rien.
Vous dites,
et si vous le dites maintenant,
il dit n'importe quoi. Vous dites Payon, par exemple,
sur le nucléaire, quand il dit c'est l'énergie la plus propre, J'ai envie de lui dire que tous ceux qui disent ça prennent un fût de déchets nucléaires dans leur jardin. Et on va en reparler. Je crois qu'honnêtement, c'est pas sérieux de dire une chose pareille. Ce sont des formules creuses comme l'indépendance énergétique de la France alors qu'on est dépendant des importations d'uranium. Bon, il faut être concret, il faut être précis, il faut être clair. Et ça, les débats de la primaire permettent d'avancer. Et puis par ailleurs, moi je dis tant mieux si des candidats se saisissent des enjeux écologiques à la veille d'une primaire. Mais ce serait bien, en tout cas, je pense que la crédibilité, elle peut pas venir simplement de quelques engagements à la veille d'une primaire.
Voilà, bah nous sommes arrivés à la fin de votre phrase, au terme de la première partie de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes avec François de Rugy, Roselyne, pour après un point sur l'actualité, quoi. Voilà, à tout de suite.
Présente
Mardi Politique.
Retour d'un Mardi Politique sur France 24 et RFI avec notre invité, avec Frédéric Rivière, François de Rugy, donc candidat écologiste à la primaire, vice-président de l'Assemblée nationale et député de Loire-Atlantique. Alors, on a parlé d'écologie, de ces débats, du troisième débat qui a lieu d'ailleurs ce jeudi. On va parler d'Emmanuel Macron, parce que tout de même, le phénomène ne faiblit pas, la bulle continue à grossir. Donc, alors que les socialistes débattent, eh bien, lui, il fait ça le comble partout. Il semble avoir de plus en plus de ralliement. On dit Ségolène Royal, sûr, elle a mis le tampon. François Hollande, ça l'est un peu moins. Est-ce que vous seriez tenté par l'aventure Macron après les primaires, parce que vous savez très bien que vous n'allez pas gagner. Donc est-ce que vous allez le rejoindre, par exemple, plutôt que de rester dans votre parti, qui est formidable, mais est-ce que vous allez rejoindre un parti gros?
Ça aurait été bien que Emmanuel Macron vienne. Accepte de débattre. Et d'ailleurs, quand vous parliez des débats de la primaire et que vous parliez d'Emmanuel Macron, j'ai cru que vous nous annonciez qu'il allait participer au dernier débat. Mais plus sérieusement, c'est dommage qu'il n'ait pas voulu participer. Parce que si justement, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, s'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces meetings, qui ont adhéré à son parti, qui font des dons à son parti, eh bien, toutes ces personnes auraient sans doute voté pour lui dans la primaire.
Oui, mais on va pas pleurer sur l'air renversé. Ma question est,
mais c'est quand même une responsabilité qui est importante. Et lorsque la primaire sera terminée, lorsque le vote aura eu lieu, et vous me permettrez de commenter les résultats et d'en tirer des leçons. Il faudra en tirer des leçons lorsque le vote aura eu lieu, par respect pour les électeurs et les électrices de gauche qui viendront à la primaire. On va quand même attendre que le vote ait eu lieu. Je crois quand même que la primaire de la droite doit nous enseigner, et enseigner surtout aux commentateurs, une certaine prudence quant au scénario écrit à l'avance ou quant quasiment le résultat est décrit de façon péremptoire avant que les gens aient voté.
Pourquoi quand je disais que vous alliez pas gagner, vous pensez que je peux me tromper?
Mais en tout cas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous êtes capable de dire quels seront les deux finalistes.
Il y a eu, par exemple,
une
surprise incroyable dans la primaire de la droite.
Moi, je ne me prends pas pour
un scénario totalement inattendu. Vous paraît possible dans cette primaire de gauche, y compris votre victoire?
Je crois d'abord que la politique, c'est pas le PMU. Hein, donc on n'est pas là pour faire le tiercé, le quarté ou le quinté dans l'ordre ou dans le désordre. C'est très bien pour ceux qui jouent aux chevaux, mais quand on fait de la politique, on se bat pour convaincre sur des idées. Et puis ensuite, on respecte le verdict des urnes. Moi, je respecterai le résultat de la primaire. Le but de la primaire, c'est de créer une dynamique de rassemblement. Donc chaque chose en son temps. Pour répondre à votre question sur Emmanuel Macron, moi, je ne vais pas brûler les étapes. Je dis première étape, le premier tour de la primaire, deuxième étape, deuxième tour.
Comme personnage, comme politique.
Moi, j'ai toujours dit.
À l'appui de cette question, vous dites dans votre projet pour la primaire, je pense que la société française souffre d'être trop souvent bloquée par des logiques partisanes d'un autre âge, par des corporatismes paralysants, par un conformisme politique. Ça n'est pas finalement le discours de Macron aussi, ça?
Je l'ai dit à la fin du premier débat aux Français qui nous regardaient, 4 millions de personnes, je leur ai dit, ne vous laissez pas dicter par le conformisme des partis ou des médias.
Ça ne vous rapproche pas, le choix, il est libre. Discours qu'Emmanuel Macron, finalement?
Par certains côtés, moi je trouve intéressant qu'Emmanuel Macron renouvelle la vie politique française. J'ai toujours été pour le renouvellement, d'ailleurs dans la primaire de la gauche, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de renouvellement sur les idées et puis au moment du vote. Mais c'est les Français qui décideront. Et puis après, je dis quand même qu'il y a deux problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un autre problème, au moins une question sans réponse, c'est Emmanuel Macron, président. Quel est le gouvernement? Quelle est la majorité parlementaire? Quelle est la coalition? Avec qui il travaille? Personne ne le sait. Et là, ce ne sont pas les ralliements, sans vouloir être désagréable à l'égard de telle ou telle personne, qui vont construire l'ossature d'un gouvernement
peut-être
ou d'une majorité parlementaire.
Peut-être que beaucoup de socialistes y iront rejoindre le...
Ah, oui. Mais avec des peut-être, vous savez qu'on dit
oui,
que
vous avez
Jacques
raison,
Chirac,
mais...
quand il était maire de Paris, disait avec des si, on met Paris en bouteille et je suis bien placé pour savoir que ça ne se fait pas. Eh bien voilà, moi je ne suis pas là pour faire de la politique fiction, pour écrire des scénarios, je suis là pour convaincre, d'abord dans la primaire de la gauche, puis ensuite il y aura la campagne de l'élection présidentielle.
On dit un petit mot de François Hollande qui samedi au Mali s'est livré à une déclaration sur le ton de la confidence, mais publique. Il exprime au fond des regrets de ne pas se représenter. On va l'écouter, puis vous nous direz ensuite ce que vous en pensez.
Durant toutes ces années où j'ai été parmi vous, j'ai été accueilli sur le sol africain et j'y ai effectué 32 visites officielles. Disant cela, je ressens un goût d'inachevé qui aurait dû finalement justifier d'autres prétentions.
Un goût d'inachevé qui aurait dû justifier d'autres prétentions. Comment vous interprétez cette déclaration ?
C'est très ambigu, en effet, et peut-être que ça peut donner à des interprétations, comme vous venez de le faire juste avant, qui seraient qu'en fait, il regrettait de ne pas se présenter à l'élection.
Parce que ça peut être compris autrement, d'après vous ?
Bah, moi, je vais vous dire, on en a beaucoup souffert, depuis 2012, de ces propos alambiqués, où il y a de multiples interprétations, dans lesquelles je pense que l'auteur finit par se perdre lui-même. Et il s'y est tellement perdu qu'il n'a pas pu se représenter à l'élection présidentielle, il n'a pas pu faire une construction politique, parce que là aussi... Vous avez beau être président de la République en exercice, ouais. Eh bien, pour vous présenter à l'élection présidentielle et pour gagner, il faut avoir une construction politique, une dynamique politique, un rassemblement politique électoral qui le permet. Donc moi, je n'ai pas envie de spéculer sur le sens de déclaration à Bamako.
C'est François qui a tué Hollande. Ce ne sont pas les frondeurs ou la ligne économique ou la ligne politique qui n'était pas la bonne.
Frondeurs ont fait beaucoup de tort, ça c'est sûr.
C'est Hollande qui s'est fait
à la majorité pendant 3 ans, puisque la fronde a commencé à peu près au bout de 2 ans, 1 an et demi. Mais ceci étant, la première responsabilité du quinquennat, vu notre système institutionnel, c'est évidemment le premier responsable institutionnel qu'est le président de la République. Mmh. Hein, ça, il ne faut pas se défausser de ses responsabilités. Et d'ailleurs, François Hollande ne s'est pas défaussé, puisqu'il a fini par en tirer la conclusion qu'il ne pouvait pas se représenter. Mais donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de commenter ce qui sont déjà des commentaires.
Alors, on va parler un peu de l'Europe, hein, puisque aujourd'hui, en Grande-Bretagne, Theresa May a annoncé sa détermination à sortir du marché unique, un Brexit dur, mais par étapes. Voilà qui est enfin clarifié, puisqu'on se demandait est-ce que ça va être le soft Brexit, le hard Brexit. Eh bien, on a eu la réponse. Aujourd'hui, on écoute Theresa May.
Pas une relation avec l'Union européenne qui serait partiale, ou quoi que ce soit qui nous laisse un pied dehors, un pied dedans.
Voilà, donc c'est clair. Faut-il, d'abord, votre réaction, est-ce que faut-il déplorer la sortie du marché unique ? Et dans un deuxième temps, est-ce que la France ne va pas en souffrir parce que nous sommes de gros exportateurs au Royaume-Uni ?
C'est jamais une bonne chose que l'Union européenne se désagrège, mais il faut respecter le vote des Britanniques. Ils ont voté, le choix a été fait, on va pas là aussi le commenter à l'infini, il faut en tirer des conclusions concrètes.
Enfin là, au moins, on sait à quoi s'en tenir.
Exactement, et moi j'avais mis d'ailleurs dans mon projet que je souhaite que la France ait une position claire et ferme, et d'ailleurs François Hollande l'a eu depuis le vote des Britanniques, le Brexit, c'est le plus tôt sera le mieux. Parce que, en effet, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors, et surtout on ne peut pas avoir, parce que là je ne suis pas sûr que Theresa May et les Britanniques soient toujours aussi clairs, en gros, garder certains avantages, Vous savez qu'il y a des choses liées à la finance, par exemple, sur laquelle la place de Londres a toujours eu un rôle extrêmement important, où en gros, ils ne voudraient plus avoir la moindre solidarité européenne, la moindre législation européenne, mais ils aimeraient bien continuer à avoir la libre circulation des capitaux entre l'Europe et la place financière de Londres. Ben ça, c'est fini. Ils ont fait un choix, ils en assument les conséquences.
Donc, dans le fond, vous dites, c'est clair, c'est triste, mais...
Transformons quelque chose qui n'était pas une bonne nouvelle au départ, comme un nouveau départ, parce que l'Europe a besoin d'un nouveau départ. Parce que l'Europe est enlisée dans une impuissance, dans une paralysie, d'ailleurs, qui fait que les Européens, évidemment, et les Français se détournent de la construction européenne, n'y croient plus. Et moi, j'ai toujours été persuadé, convaincu que la construction européenne était utile, parce que quand je vois le défi du climat, on va pas le relever tout seul, nous, la France, dans notre coin. Si demain, on doit faire un bras de fer avec Donald Trump sur la question du climat, parce que lui voudrait que les États-Unis renient leur signature sur l'accord de Paris, eh bien, il vaut mieux faire ce bras de fer avec toute l'Europe derrière nous. Face à la Russie de Poutine, qui est sur un expansionnisme agressif, il faudrait que l'Europe sache faire le bras de fer, en tout cas, à plusieurs grandes nations européennes. On va pas le faire tout seul.
Ben, sur le Brexit, Theresa May dit donc pas un pied dehors, pas un pied dedans, totalement dehors, finalement. C'est, dit-on, le Brexit dur. Mais elle présente ça comme un choix, et on dit, voilà, Theresa May a choisi. Mais est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, a vraiment le choix, au fond? Puisque c'est quand même les 27 qui restent, qui dictent les conditions, en principe, non?
En tout cas, en Europe, tout le monde sait très bien que parmi les 27 chefs d'État et de gouvernement, certains auraient été tentés, avec des calculs et des arrière-pensées pour eux-mêmes, d'ailleurs, de renégocier des nouveaux accords où, en effet, il y aurait eu un pied dedans, un pied dehors. Parce que peut-être que certains pays de l'Union européenne aiment bien cette idée d'avoir, en gros, les avantages de la construction européenne, le marché unique, le développement économique qui va avec, le fait aussi d'avoir des subsides, des subventions européennes. Mais appliquer toutes les directives, appliquer une solidarité européenne, là, il y en a qui ne veulent pas, qui veulent s'en désengager. Et ça, on peut pas l'accepter.
Alors, donc, Donald Trump, lui, a en tout cas sa petite idée, très personnelle, sur les raisons qui ont mené les Brexiteurs à faire le Brexit. On va peut-être écouter, Frédéric. Donc, Donald Trump, c'était hier. On l'écoute.
Je crois que si le Royaume-Uni n'avait pas été contraint d'accueillir tous ces réfugiés, si nombreux avec tous les problèmes que cela comporte, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Brexit. Le Royaume-Uni a été très intelligent en sortant de l'Union européenne. Vous êtes témoin de cela, vous l'avez mis en une. Trump dit que le Brexit va avoir lieu, et c'est arrivé.
Si on suit la logique de Donald Trump, d'autres membres de l'Union européenne pourraient craquer dans les années à venir sous la pression de l'immigration.
Je crois surtout que le raisonnement de Donald Trump, une fois de plus, il n'est fondé sur aucune réalité, puisque la Grande-Bretagne...
Theresa May parle beaucoup de l'immigration, là,
oui,
sa volonté d'un
la Grande-Bretagne n'est pas
y compris de l'immigration, d'ailleurs, européenne.
Voilà, donc on mélange les choses, et en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec les réfugiés
syriens ou afghans. Il y avait un rejet il y avait un rejet de l'immigration intra-européenne.
Oui.
Ça, il faut le dire, c'est pas la même immigration...
Ce qui fait, par exemple, que les Polonais, le gouvernement polonais, qui est plutôt anti-européen, qui est plutôt sur un repli nationaliste. En revanche, il n'était pas favorable à ça parce qu'il y a beaucoup de ressortissants polonais qui ont émigré en Grande-Bretagne pour y travailler. Comme quoi, il faut toujours faire attention. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Oui. Mais ce que je veux dire concrètement pour répondre à votre question, c'est que je crois que le vote des Britanniques et ce qui va se passer maintenant que le Brexit va avoir lieu, va servir de leçon parce que là, on verra grandeur nature ce qui se passe quand un pays sort. Et on verra si la Grande-Bretagne y gagne. Pour l'instant, on voit bien qu'elle s'appauvrit plutôt de cette sortie de l'Union européenne. Son PIB a baissé, sa monnaie a moins de valeur. Et demain,
ça facilite les exportations.
Oui, mais en revanche, les implantations, par exemple, d'usines en Grande-Bretagne, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'industries qui se disent avant c'était une porte d'entrée dans l'Union européenne, maintenant ça ne le sera plus. Pour la place de Londres, la place financière de Londres, on voit bien que beaucoup de gens qui travaillent sur cette place financière envisagent de venir à Paris ou de venir à Francfort.
Vous pensez qu'ils vont payer le prix fort ?
Ah ben, je pense que ils vont voir ce que c'est que de vouloir jouer cavalier seul. Dans un premier temps, ça paraît, on se dit, ça y est, on a peut-être retrouvé sa liberté. Mais dans un deuxième temps, d'ailleurs, déjà des gens qui ont voté oui au Brexit en Grande-Bretagne se rendent compte que peut-être ils n'ont pas fait le meilleur calcul. Et je crois que pour la France, par exemple, parce que c'est quand même un sujet en France, vu que le Front National de Marine Le Pen, il prône cette politique-là, eh bien, on va pouvoir en parler concrètement, y compris dans la campagne présidentielle.
Alors, avant de reparler de l'Europe et dans le fond de sa relance, peut-être, une question, on a vu qu'il y avait une empoignade assez violente, d'ailleurs, c'est à peu près celle qu'on a retenue lors du débat, c'est sur les migrants et le reproche qui était fait à Manuel Valls, en fond, d'avoir critiqué la politique migratoire d'Angela Merkel. Mais ces politiques pro-immigration, est-ce qu'elles ne provoquent pas justement la réaction populiste ?
C'est évident que l'Allemagne a dû faire face à des problèmes extrêmement importants de toute nature. Il faut quand même savoir que l'Allemagne a dépensé 20 milliards d'euros en 2016 pour accueillir les migrants. L'Allemagne peut se le permettre. Elle avait 19 milliards d'euros d'excédent budgétaire. Nous avons un déficit de 70 milliards, je le rappelle quand même.
Et puis par ailleurs, n'oubliez pas qu'en France, on a Marine Le Pen, donc le populisme...
Il existe déjà, voilà. Et donc il ne faut pas forcément le rendre responsable. Mais en Allemagne, il y a un mouvement d'extrême droite qui monte. Pour autant... Le débat, il n'est pas tellement là. Moi, je veux là aussi qu'on sorte.
Il n'est pas tellement là.
Non, mais dans la primaire de la gauche, vous disiez que ça a été un débat extrêmement vif. Je crois qu'il y a eu beaucoup de postures. Parce qu'en réalité, je ne crois pas qu'à gauche, qui que ce soit défende la liberté totale d'installation et de circulation. Et les conséquences que ça aurait.
C'est-à-dire l'incapacité. Le passeport humanitaire.
Et justement, c'est assez flou comme notion. Et moi, j'ai dit, on n'a pas besoin de créer un nouveau statut. Appliquons le droit d'asile comme il se doit. Intégrons les personnes qui sont acceptées au droit d'asile. Dès qu'une personne fait sa demande d'inscription au droit d'asile, même quand il y a encore des procédures, que cette personne puisse travailler pour ne pas être obligée de dépendre des aides sociales ou être obligée parfois de se livrer à des activités du travail au noir ou des activités délictueuses. Et donc, moi, je préfère qu'on soit concret. Oui, on doit accueillir en France des demandeurs d'asile. Il faudra sans doute en accueillir plus tant qu'il y aura des guerres.
Et le problème, c'est de faire le tri.
Et deuxièmement, donnons-nous les moyens de le faire correctement, parce que c'est une responsabilité à assumer, et donnons-nous les moyens au niveau européen. Moi, je l'ai dit, j'étais en désaccord avec Manuel Valls sur ce point, qu'il y ait un partage, on avait appelé ça des quotas, on peut dire ça comme on veut, mais qu'il y ait un partage au niveau européen pour que l'effort de solidarité soit partagé par les uns et par les autres.
J'ai envie de dire un mot de l'Europe, puisque vous le savez, Donald Trump prend les rênes du pays... le 20 janvier, très vite. Donc avec Trump, avec la Russie de Poutine, c'est le réveil des empires. Avec Poutine, bon, ce n'est plus l'empire soviétique. C'est une sorte de dévolution. Mais enfin, en tout cas, il est, s'il s'installe comme un leader fort. Et l'Europe, elle, s'affaiblit. Donc, comment peut-elle et comment doit-elle devenir une puissance, une Europe, ce qu'on appelle une Europe puissance?
Il faut arrêter de penser qu'à 27, on va réussir à tout gérer, y compris la défense, et qu'on va faire une Europe de la défense à 27. C'est pas vrai. Ça marchera pas. Il n'y a pas 27 pays de l'Union européenne qui sont prêts à le faire. Est-ce que pour autant on doit ne rien faire? Est-ce que c'est le tout ou rien? C'est soit à 27, soit à zéro. Moi, je fais une proposition, c'est qu'on reparte d'une initiative à plusieurs pays, et j'appelle ça une alliance militaire, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance militaire qui aujourd'hui est dirigée par les États-Unis. Les États-Unis de Donald Trump disent on va se désengager, il l'a encore redit, de la sécurité européenne. Et plus grave que cela, il veut faire une alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Ça, c'est totalement nouveau, puisque avant, vous disiez les empires, c'était deux empires qui se faisaient face et qui se menaient même une guerre froide. Là, il veut faire une alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Bien, je pense que c'est de nature à réveiller les consciences européennes, et j'ai proposé que ce soit la France qui le propose à l'Allemagne et à la Pologne. Moi, j'ai discuté avec des parlementaires polonais de différentes sensibilités politiques. Ils ont au moins en commun d'être très inquiets de la puissance
militaire. Ils sont très pro-américains. Enfin, ils étaient.
Ils étaient parce qu'ils pensaient qu'il y avait le parapluie américain. Sauf que Donald Trump vient de leur dire le parapluie américain, il est replié.
On le referme.
Et il va d'ailleurs maintenant être avec les Russes.
De leur côté, les Allemands ne sont pas très militaristes.
Les Allemands dépensent beaucoup dans leur budget militaire, mais ils ne veulent pas faire d'intervention extérieure. Donc moi, je leur dis, on peut s'allier, faire une alliance militaire, France, Allemagne, Pologne, ceux qui voudraient
nous
rejoindre,
nous, on le feraient,
pour assurer la défense de l'Europe. Pour les interventions extérieures, ça restera toujours sur le bon vouloir des États. Mais vous savez que l'OTAN, c'est une alliance militaire. Et pour autant, il y a parfois des interventions extérieures, mais seuls les pays qui veulent y participer, y participent. Moi, je pense que cette alliance militaire, elle a vocation, il faut anticiper, à remplacer l'OTAN d'ici quelques années.
Est-ce que vous pensez que les Allemands peuvent évoluer avec le terrorisme qui frappe à leur porte, chez eux? Est-ce que Dans
bien
le fond,
sûr.
Cette tradition pacifiste peut, eh bien, devenir un peu.
Mais
plus,
vous savez que ça a déjà évolué.
Un peu moins pacifiste.
Ça a déjà évolué, et c'est d'ailleurs sous l'impulsion d'un ministre écologiste des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui a été ministre en Allemagne pendant 7 ans, de 1998 à 2005, et qui avait réussi à convaincre son propre parti, et c'était très difficile parce que les Verts allemands étaient pacifistes, et aussi sa majorité à l'époque avec les sociaux-démocrates, et même l'Allemagne, d'intervenir au Kosovo. Et c'était la première fois que l'Allemagne participait à une intervention extérieure, et elle avait bien fait de le faire. Donc les choses peuvent évoluer, justement, comme vous l'avez fort bien dit, sous la pression des événements. Et l'Allemagne est en train de se rendre compte, comme sans doute la France il y a 2 ans, qu'on revient dans le tragique de l'histoire, et qu'on ne peut pas rester passif face à cette situation.
Vous êtes le seul écologiste à assumer ses positions sur les questions de défense, sur l'interventionnisme.
C'était un de sujets de divergence avec une grande partie d'Europe Écologie Les Verts.
Il y avait un
oui, mais il faut. Mais c'est pour ça que moi j'en ai marre des slogans. L'Europe de la défense.
Oui, ça veut rien dire.
Ça ne veut rien dire et ça ne marche pas. Chaque fois que ça a été testé, ça n'a pas marché. Une alliance militaire, c'est fait peut-être un peu plus dur, mais c'est ça la réalité.
Et c'est la fin de cette émission.
Malheureusement.
Merci François de Rugy.
J'en reviendrai avec plaisir.
Merci Roselyne. Et Mardi Politique, évidemment, revient mardi, oui. Mardi prochain. Remercions Pauline Hellmann et Audrey Yatoni qui nous
merci.
A été à la
merci.
Préparée. Merci, bonsoir.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonjour à tous.